Il est mort Jim, lu par l'auteur, épisode 102, chapitre 16. Comment était-ce possible? Pourquoi avions-nous été frappés de la sorte? Liz Angela allait bien. Elle était protégée par son défibrillateur. Et précisément à ce moment, son existence l'avait quittée. Ou presque. Le 3 avril 2014, vers 4 h du matin, je m'étais réveillé en sursaut. Je ne sais toujours pas ce qui m'avait alerté. J'allais me rendormir lorsque je me tournais vers elle. Elle était couchée en chien de fusil. La pièce était noire. Je la distinguais avec difficulté. Quelque chose m'a poussé à me lever et, à la lueur des chiffres rouges de son radio-réveil, à l'observer dormir. Je me rappelle d'une sensation, disons, de déconnexion, mais elle était si ténue qu'elle n'aurait pas dû m'alerter. Liz Angela était parfaitement immobile. Son sommeil devait être très profond. Je me laissais envahir par un sentiment de tendresse jusqu'à ce que je compris ce qui n'allait pas. J'étais tout près d'elle, mais je ne l'entendais pas respirer. Une marée d'angoisse m'envahit. Je m'approchai encore, espérant un filet de respiration. Je n'entendais rien. Je ne pouvais plus attendre. Si je m'étais trompé et la réveillais, tant mieux. Je la retournai, défis la couette, mis mon oreille sur sa poitrine, puis contre sa bouche. Elle ne respirait plus. J'aurais voulu mourir à côté d'elle à cet instant. Quelque chose en moi fit que je me repris sans attendre, quelque chose dont j'avais entendu le témoignage. Les récits qui font part d'un ressaisissement, qui étonnent même la personne à qui cela arrive, n'étaient pas rares. Bien sûr, en cette sombre nuit, je n'avais pas le temps d'en conclure que c'était peut-être bien une preuve supplémentaire que quelque chose en nous pouvait dépasser notre propre conception de nos insuffisances et de nos peurs. Je me ressaisis donc en touchant ma compagne pour vérifier son état. Elle ne respirait plus, mais son corps était encore chaud et n'était pas raide. Cela signifiait que ce qui devait être une crise cardiaque s'était produit peu de temps auparavant. J'en savais même un peu plus grâce à un lointain cours de premier secours. J'ai appelé les urgences. C'est le genre de numéro qu'on n'a jamais sur soi et qu'on se promet de toujours noter. L'ordinateur de mon bureau était resté allumé. Liz Angela ne pouvait plus me le reprocher, malheureusement. J'inscrivis Hospitales de Miraflores Lima sur Google et me décidai pour l'hôpital José Casimiro Ulloa. Il se disait Hospital de Emergencias et se trouvait relativement près de chez moi, avenue República de Panama. J'appelais le 201-409-00. J'expliquais la situation. Une voiture arriverait dans les 10 minutes. Je savais ce qu'il fallait faire en attendant. Je raccrochai sans répondre, courus vers Liz Angela, lui compressai la poitrine au mieux de mes souvenirs de l'ennuyeuse séance de secourisme. J'alternais les pressions avec le bouche à bouche. Elle ne bougeait pas. Lorsque je la confiai aux deux praticiens rapidement arrivés, elle fut aussitôt transportée dans l'ambulance. Ils y pratiqueraient les électrochocs pendant qu'elle serait conduite à l'hôpital. Je pouvais les accompagner. On m'y autorisa, mais on me plaça à l'avant à côté du chauffeur. Pendant qu'il avalait les rues Miraflorine, heureusement désertes en cette annonce de l'aube, j'observais tour à tour le parcours, calculant, sans y penser, le temps qu'on mettrait pour rejoindre l'avenue República de Panama et le travail des deux secouristes à travers une petite vitre qui donnait sur l'arrière. Je compris, à leur geste, que la femme était le médecin et son collègue un infirmier. 10 minutes plus tard, je me retrouvais dans la salle d'attente que l'on voyait à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle dans un grand nombre de films. Il y avait même une machine à café à laquelle j'étais censé me servir avant de m'asseoir et de mettre ma tête entre les mains, ce qui dépeignait l'angoisse que les spectateurs devaient percevoir. C'est à peu près ce que je fis, interdit que j'étais d'entrer dans le secteur des soins intensifs.